les bienvenus. Alors, le climat se réchauffe, si on le sait. Hein, si on reste dans la prévision la plus allez, optimiste de l'accord de Paris, ce sera 1,5 degré d'ici à la fin du siècle. Ce sera plus probablement 3 d'ailleurs. Et ça va nous obliger à repenser nos villes, Adrien Zerbini.
Oui, et ce qui est très intéressant, c'est qu'une étude récente de l'EPFL a pris le problème, si on veut bien, à la racine. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie d'avoir chaud, d'avoir trop chaud? C'est ce qu'on appelle la perception thermique et c'est quelque chose d'assez subjectif finalement. Et si l'on veut bien penser nos villes de demain, eh bien, il faut s'intéresser à cette perception thermique. C'est donc ce qu'a fait une chercheuse du laboratoire d'énergie solaire et physique du bâtiment. Je vais y arriver.
De l'EPFL.
Voilà, bâtiment de l'EPFL. En étudiant de très près les microclimats du campus de l'EPFL et également de l'école scientifique suisse de Dubaï.
Ouais, ça va un tout petit peu mieux, hein, en fait, Amélie.
Bon, c'est ça.
Bonjour Sylvia Coccola.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes donc postdoctorante au laboratoire, on va le redire, d'énergie solaire et physique du bâtiment de l'EPFL, auteur de cette vaste étude qui a été l'objet de votre thèse d'ailleurs. Alors, on va commencer par le début, cette perception thermique, avoir trop chaud, avoir trop froid, c'est quand même quelque chose de difficile à quantifier de manière absolue.
Oui, effectivement. Alors, c'est depuis les années 70 qu'on a des modèles qui sont très précis pour le confort intérieur. Donc, on a des modèles de Fenger qui nous permettent de bien quantifier le confort de la personne selon les échanges thermiques entre la personne et l'environnement. Par contre, à l'extérieur, c'est tout à fait différent parce qu'effectivement, on ne peut pas contrôler l'environnement et on est dehors pour des raisons différentes. Donc, c'est assez complexe de le quantifier. Mm-hmm. Nous, on a repris des modèles qui déjà existent, on les a codés et on a essayé d'être le plus précis possible pour bien quantifier le confort et la perception thermique.
Donc, quand on parle de confort, ça sous-entend qu'il il faut qu'on s'intéresse à la température, mais aussi à l'humidité,
exact.
Aussi au rayonnement solaire.
Oui, à la vitesse de vent, à le temps qu'on est dehors, la motivation pour laquelle on est dehors. Donc, il y a beaucoup de phénomènes qui rentrent dans le système.
Il y a beaucoup de paramètres.
Ouais. Exact. Ouais. Donc, on a 3 moyens de nous adapter à l'espace extérieur. On dit physiquement, psychologiquement et physiologiquement. Donc, physiquement, on peut changer l'activité métabolique ou les habits. Donc, on peut choisir d'être bien certaines moyennes ou une autre. Physiologiquement, c'est comment notre corps réagit, donc la température de l'air, vitesse de vent et tout ça. Et après, psychologiquement, ça c'est assez complexe à quantifier. Donc on sait qu'on a une perception différente jusqu'à 10 degrés entre une personne qui habite à Athènes ou à Fribourg. Donc ce sont des études qui étaient faites et qui ont démontré ça. Mm-hmm. Après, ça dépend aussi beaucoup de la saison où on est. Par exemple, si on est pendant l'été, ben alors on va tolérer de manière différente la température que si on est en printemps ou en automne. Parce que ça dépend de la température qu'on a perçue jusqu'au mois avant.
Ben
donc
oui.
C'est quelque chose d'assez complexe. Mais on a des méthodes assez précises et scientifiques qui nous permettent de le quantifier.
Alors, dans votre étude, vous vous êtes appuyé sur des modèles énergétiques existants, donc qui s'appellent COMFA et ITS, des modèles donc de cette perception thermique. Vous pouvez nous expliquer juste comment ça marche, ces modèles?
Oui, bien sûr. Alors, déjà, ce sont 2 modèles énergétiques. Donc, on a des modèles très différents. On peut avoir des questionnaires, on peut avoir des modèles linéaires qui simplement interpolent les différents paramètres environnementaux. Ici, on veut quantifier l'échange énergétique. Donc, on veut comprendre, par exemple, quel est l'impact de rayonnement solaire, quels sont les watts qu'on reçoit.
Ça veut dire, si j'ai trop chaud, je vais transpirer, je vais évaporer de l'énergie,
exactement.
Je vais avoir un échange d'énergie avec
exactement, on a 3 moyens principaux, rayonnement, évaporation et convection. Donc c'est comme ça que notre corps physiologiquement réagit à l'espace externe. Donc le CONFA a été développé pour le climat tempéré et l'ITS pour le climat chaud. Donc en quelques moyens, ils arrivent aussi à définir la côté psychologique des personnes parce qu'ils définissent la naturalisation avec le climat. Donc ce sont des modèles énergétiques, mais aussi avec un côté psychologique qui est déjà intégré, on dirait, à l'intérieur. Ils sont des modèles qui deviennent déjà des années 70 ou 80 et qui sont en train d'être développés. Donc, par exemple, on est en train de travailler avec une prof américaine pour définir le modèle de confort pour les enfants, qui c'est quelque chose qui est encore en cours et pas si facile à quantifier.
Exactement. Donc, d'un côté, il y a ces modèles de perception thermique qui sont établis comme ça. De l'autre, il y a des mesures que vous avez prises justement sur le campus de l'EPFL.
Oui.
Expliquez-nous ça.
Exactement. Alors, on est parti de principe qu'on est dans un écosystème. Donc, on sait que la consommation de bâtiments est liée à l'endroit où on est, donc le climat, mais aussi au microclimat. Chaque ville a 100 ans de microclimat différent. Ça dépend des matériaux, de l'orientation des bâtiments et tout ça. On sait que le microclimat impacte la perception thermique des personnes. Donc, on voit qu'on est directement dans une espèce de loop. Donc, si on arrive à avoir une vision complète de cet écosystème, ben, on peut proposer des recommandations, faire des études ponctuelles et précises. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à l'EPFL. Donc on a recréé notre modèle énergétique, on l'a validé avec les mesures qui étaient faites sur le site et on a aussi quantifié le confort des personnes. Donc on a fait des mesures à l'EPFL, mais aussi dans les États-Unis, en Israël et à Dubaï, où on a eu la possibilité de travailler dans un campus et d'une école. Et donc on a pu valider toutes les méthodologies qu'on a développées.
Oui, parce que c'est vrai que quand vous vous retrouvez, je ne sais pas, dans une ville, sur une place où il y a quelques arbres, vous avez un certain ressenti de température, puis vous vous déplacez 10 mètres dans une rue où il n'y a plus d'arbres, vous avez un total changement dans la perception.
Ouais, exactement.
Même si la température est finalement la même. Quoi.
Exactement. Ouais. Peut-être on a un degré de température de différence, mais les plantes ont un impact très fort. Donc aussi, il y a des modèles qui sont disponibles où on peut quantifier l'impact des plantes. Donc selon le foliage, la dimension aussi des feuilles, la couleur des feuilles, la position dans l'environnement, mais ça nous impacte complètement la perception thermique.
Ouais, Bastien.
Mais cet impact, il est psychologique ou il est physiologique?
Non, il est physiologique.
Physiologique pour les plantes.
Après, on a aussi la côté psychologique, ça c'est évident, mais on peut quantifier les watts qui sont donnés par la plante. Donc c'est ça qui est intéressant, on est très précis et on arrive à le quantifier.
Alors Sylvia Coccolo, vous avez mentionné tout à l'heure l'école scientifique suisse de Dubaï, c'est un bâtiment assez particulier, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait sur cette école-là.
Oui, grâce à l'intervention et soutien de l'EPFL Middle East, on a eu la possibilité de travailler sur cette campus, deux premiers projets. Donc on a travaillé avec les architectes et les ingénieurs pour concevoir, car c'est le premier bâtiment Minergie là-bas, on a eu la possibilité de travailler sur le concept. Mais ce qui est intéressant, c'est pas seulement la côté énergétique, pas seulement le bien-être à l'intérieur, mais c'est à l'extérieur. Donc, on est en train de monitorer le microclimat. On a trois stations météorologiques qui mesurent depuis 2015 la température de l'air, la vitesse de vent.
Autour du bâtiment.
Exactement. Ouais. Donc, on a trois stations dans trois endroits différents et on quantifie le microclimat. Et on a vu qu'on peut avoir jusqu'à 10 degrés de différence en température radiante entre l'extérieur, donc un espace au soleil, et l'espace de jeu des enfants. Et c'est impressionnant, si on imagine. On n'a pas de gaspillage d'énergie, rien, seulement la forme de bâtiment, les matériaux, l'ombrage ou la végétation peut donner cet impact. C'est quand même.
Comment on arrive à avoir 10 degrés de moins? Ça veut dire quoi? C'est un sol, c'est de la pelouse ou...
Alors, dans certains lieux, on a de la pelouse. Dans d'autres lieux, on a de matériaux qui arrivent à bien stocker la chaleur. La masse thermique, c'est essentiel dans ce climat. Si on arrive à stocker la chaleur pendant la journée et la remettre pendant la nuit, bien, on arrive à garder un microclimat qui est assez intéressant. Après, les ombrages aussi, mais les bâtiments même, s'ils sont bien orientés, s'ils protègent du soleil de l'est et de l'ouest, par exemple pendant l'été, bien, ils créent des conditions assez fascinantes.
On peut créer un microclimat autour d'un bâtiment en le construisant intelligemment. Donc, ouais. Intéressant. Ouais.
Et vous avez juste aussi étudié la manière dont les bâtiments interagissent entre eux, c'est correct?
Oui, c'est ça. Alors, on a cette logiciel qui s'appelle CitySim, qui était déjà développé dans le laboratoire, qui nous permet de quantifier pas seulement la consommation d'énergie de bâtiment, mais aussi l'interréflexion entre les bâtiments. Donc, on est dans un monde urbanisé, on ne peut plus penser de construire notre petit bâtiment. On doit voir quel est l'impact entre notre bâtiment et le reste de la ville. Donc oui, on a eu la possibilité de quantifier ça.
Et alors une fois que vous avez récolté toutes ces mesures, on se rend compte qu'il y a beaucoup de données à mettre en lien. Vous créez donc ce modèle de perception thermique, vous parliez à l'instant de ces modèles d'énergétique. Et ensuite, comment on projette tout ça dans l'avenir?
Ah, alors ça c'est assez intéressant. On a fait des modèles, on a utilisé des modèles déjà existants de l'IPCC, donc pour voir quelles seront les conditions climatiques.
GIEC, donc en français.
Voilà. En 2050 et 2100, pour comprendre quel sera le comportement thermique de notre bâtiment, mais aussi le bien-être des personnes. C'est essentiel parce que quand on parle de microclimat, de perception thermique, c'est aussi le bien-être. L'îlot de chaleur peut provoquer de problèmes à la santé. On a vu pendant l'été toutes les personnes qui ont des soucis seulement pour les conditions climatiques de lieu. Donc on a fait des modèles, on a vu qu'est-ce que ça va arriver dans le futur. Par exemple, on va changer le comportement thermique de bâtiment. Si maintenant, ici à Lausanne, on va avoir une demande très forte pour l'énergie pour le chauffage, mais dans le futur, on va changer. On va avoir aussi une demande énergétique pour le refroidissement. Et ça, c'est quand même assez intéressant dans la conception aussi actuelle de notre bâtiment.
Est-ce qu'on peut imaginer, extrapoler enfin, toutes ces données à l'entier d'une ville? Ça a été notamment testé à Abu Dhabi où ils ont fait un début de ville qui serait
Masdar,
ouais, exactement. Alors c'est un tout petit quartier encore pour l'instant, mais c'est possible d'extrapoler ça à une ville entière.
Ah oui, bien sûr. La méthodologie est la même et le moyen pour le faire c'est le même software qu'on peut utiliser. Nous on s'est concentré dans le campus parce que c'est quand même un très bon exemple de ville. De base c'est un petit villa où on a toutes les conditions de la ville. On a le flux de personnes. On a les différentes fonctions, on a différents bâtiments, différentes relations entre les bâtiments.
Mais il y a notamment des bâtiments qui sont relativement anciens encore à l'EPFL, ouais. Donc avec une conception qui date un peu. Est-ce que ça impacte beaucoup sur le ressenti thermique qu'on peut avoir en se baladant entre ces bâtiments?
Oui, mais ce qu'on doit dire, c'est que selon les études qu'on a fait, déjà qu'ils étaient conçus, c'était très intéressant, surtout l'intégration de la végétation. Si on imagine la première phase de construction, c'est plein de végétation, plein de peau. Et ça, c'est un impact très positif parce que ça change la température de surface et donc aussi la perception thermique.
Et avec toutes ces données, finalement, on aboutit à quoi ?
Alors, trois points fondamentaux. Alors, on a développé une nouvelle connaissance. On a vu des phénomènes comme le lac d'air froid, qui c'est un phénomène qu'on trouve à la Prébine, mais on le trouve aussi à l'EPFL. On a défini des modèles pour quantifier la végétation avec des valeurs très précises et ponctuelles. On a développé un logiciel, donc un logiciel qui existe, mais qui peut permettre, qui est disponible pour tout le monde, gratuitement, pour faire ce type de calcul. Et à la fin, on a donné un logiciel qui ça nous permet d'avoir une nouvelle conception. Donc, c'est quantifier, préciser avec rigueur des valeurs, mais qui c'est... C'est un outil à l'aide de la créativité des architectes et des urbanistes. Donc, c'est ça qui est.
Eh bien, merci beaucoup, Sylvia Coccola. Je rappelle que vous êtes postdoctorante au laboratoire énergie solaire et physique du bâtiment de l'EPFL. Vous avez répondu à l'invitation d'Adrien Zerbini. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci.